Mondial Sport sur RFI. Cédric de Oliveira.
Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Mondial Sport où il sera évidemment question des Jeux Olympiques de Tokyo et de cette désillusion pour Marie-Josée Talou qui échoue une nouvelle fois au pied du podium du 100 mètres féminin dominé par les athlètes jamaïcaines, un triplé pour Ellen Thompson et ses compatriotes. Autre déception pour la Côte d'Ivoire, la défaite des footballeurs en quart de finale face à l'Espagne dans un match complètement fou. On entendra le sélectionneur Swailio Haidara et on ira aussi à Abidjan pour voir comment ces échecs ont été accueillis au pays. Et puis belle journée à Tokyo pour la délégation française avec 6 médailles dont une en or obtenue par les judokas dans l'épreuve par équipe après avoir battu s'il vous plaît le Japon en finale. Une consolation notamment pour le colosse Teddy Riner. Enfin on s'intéressera aussi au football et à la reprise de la saison en France. Le trophée des champions entre le PSG et Lille aura lieu demain à Tel Aviv en Israël. Un drôle de choix, Thomas de Saint-Léger nous en dira plus. Mondial Sport, c'est parti.
C'est parti, pas de faux départ, excellent départ de Shelly-Ann Fraser, mais Talou est à la lutte, on voit également Ellen Thompson qui est bien, oh là, Talou coince, les Jamaïcaines, Ellen Thompson, loin devant Fraser et Jerica Jackson, et la quatrième place encore il me semble, pour Marie-Josée Talou, 10 secondes 60 pour Ellen Thompson. Le chrono, nouveau record olympique, rectifié à l'instant d'un centième, 10 secondes 61 pour Ellen Thompson. Le triplé des Jamaïcaines et Marie-Josée Talou, encore quatrième.
Vous l'avez peut-être vécu sur RFI, Marie-Josée Talou, une nouvelle fois quatrième, l'Ivoirienne qui échoue au pied du podium de la finale du 100 mètres féminin commentée par Christophe Jousset, l'un de nos envoyés spéciaux sur ces Jeux de Tokyo que l'on retrouve tout de suite. Bonsoir Christophe, c'était une belle soirée au Stade Olympique de Tokyo. Alors déjà, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions ?
Oui, bonsoir Cédric. Bah oui, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel aujourd'hui entre l'intensité de cette course, de cette finale incroyable, et puis tout ce qui s'est passé ensuite avec les réactions, notamment de Marie-Josée Talou.
Et donc déception pour Marie-Josée Talou, décidément abonnée aux quatrième places aux Jeux Olympiques.
Bah oui, on avait déjà vu ça à Rio, au jeu de 2016, avec une quatrième place sur 100 mètres et une autre sur 200 mètres. Celle sur 100 mètres était particulièrement cruelle, difficile à encaisser, puisqu'il lui avait manqué seulement 7 millièmes de seconde pour décrocher la médaille de bronze. Aujourd'hui, au Japon, elle est à 15 centièmes de cette médaille de bronze. L'écart est plus grand, mais c'est vrai qu'à chaud, ça n'atténuait pas du tout sa tristesse. Elle a été à la lutte avec les Jamaïcaines jusqu'à à peu près mi-parcours, mais c'est vrai que il lui a manqué la distance pour rivaliser avec ce trio magique. 10 secondes 91, c'est trop loin pour Marie-Josée Talou des chronos qu'elle a réussi lors de ses deux premières courses, le 10-79 des demi-finales aujourd'hui et le 10-78 record d'Afrique égalé qu'elle avait réussi hier en série.
Ouais, Marie-Josée Talou donc quatrième une nouvelle fois. La médaille lui échappe. On va l'écouter, Marie-Josée Talou, forcément très déçue après la course.
J'ai raté ma course, donc du coup, je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. J'ai travaillé 5 ans. Pour ça, j'ai eu plein de bobos. Et là, toute la journée d'aujourd'hui, j'ai fait la diarrhée. Je ne sais pas, j'ai pas eu la force d'hier. Bah, j'essayais de me dire dans la tête que bon, voilà, ça va aller, mais ça arrive. Hein.
Marie-Josée Talou au micro d'Olivier Pron. Christophe, elle est déçue évidemment, l'Ivoirienne, à 32 ans, c'était sans doute sa dernière chance d'obtenir une médaille sur 100 mètres.
Oui, c'était vraiment poignant de l'écouter dans cet état. Elle l'a pris sur elle pour s'arrêter au micro de RFI et dire quelques mots. Et on la remercie. Et vraiment, c'est avec beaucoup de sincérité qu'on la remercie parce que c'était un moment terrible pour elle, intérieurement, traversé par des émotions énormes, qu'elle a d'ailleurs continué à exprimer quelques minutes plus tard sur Twitter avec ce message, un cœur brisé, précédé par trois mots destinés sans doute à ses fans. Je suis désolé des fans qui ont tenté de consoler leur championne en lui disant toute la fierté qu'ils avaient éprouvée à la voir courir à ce niveau aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que Marie-Josée Talou peut être fière parce que dans l'histoire olympique, elle est devenue aujourd'hui la première sprinteuse africaine à courir deux fois une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Donc.
Oui, alors il y a eu la frustration, la déception de Marie-Josée Talou, mais Christophe, on va quand même parler des Jamaïcaines, de ce triplé incroyable de la Jamaïque et de la performance d'Helen Thompson avec un chrono historique.
Bah oui, 10 secondes 61, ça veut dire que Helen Thompson a fait mieux que Florence Griffith Joyner. Pour un centième, la Jamaïcaine a battu le record olympique que l'Américaine, à la réputation sulfureuse, vous le savez, avait établi aux Jeux de Séoul en 1988, en laissant à l'époque l'impression que personne ne pourrait faire mieux. 88, c'était 10 ans avant qu'elle ne disparaisse encore jeune, hein, celle qu'on surnommait Flo-Jo. Alors quand on lui a parlé de ce record olympique aujourd'hui en conférence de presse, Helen Thompson a dit comme quoi tout est possible. 10 secondes 61, c'est aussi le deuxième chrono de l'histoire, hein, derrière le record du monde de la même Flo-Jo. Donc Helen Thompson a de quoi jubiler, d'autant qu'elle a tenu à bonne distance Shelly-Ann Fraser, qui était là pour un troisième titre olympique, celle qu'on surnomme Mommy Rocket, qui a 34 ans et qui décroche encore une médaille olympique, une superbe deuxième place. C'est sa septième médaille olympique dans cette incroyable carrière pour Fraser. Et puis Cherica Jackson, qui est descendue du 400 au 100 mètres, complète ce podium made in Jamaica. Les trois médailles du 100 mètres féminin pour un seul pays au JO. On l'avait déjà vu une fois, Cédric, c'était en 2008, et c'était déjà les Jamaïcaines. À l'époque, Fraser était en or, et depuis, on est bien forcé de constater que de jeu en jeu, les Jamaïcaines n'ont jamais laissé échapper le titre de femme la plus rapide du monde.
Et les Jamaïcaines, beaucoup trop fortes. Merci beaucoup, Christophe Jousset, pour toutes ces explications sur le 100 mètres. On va vous laisser, puisque la nuit va être très courte. On vous retrouve dans quelques heures sur RFI.
On enchaîne demain avec un autre 100 mètres, celui des hommes.
Et les demi-finales et la finale du 100 mètres messieurs, on en parlera évidemment demain dans Mondial Sport. En tout cas, outre le titre pour Helen Thompson ce samedi, le Suédois Daniel Stahl a été sacré au lancer du disque et la Pologne a remporté l'or sur le 4x400 mètres mixte. On va pas revenir sur tous les résultats, mais sachez également que les séries du 800 mètres messieurs étaient au programme. C'est passé pour le Kenyan Ferguson Rotich, le Botswanais Nigel Amos ou encore le Français Pierre-Ambroise Boss. En revanche, c'est terminé pour Frankie Mboto. Le porte-drapeau de la délégation centrafricaine a terminé 8e et dernier de sa série. Il a pourtant battu le record national avec un chrono de 1 minute 48 secondes et 26 centièmes et c'est amplement suffisant pour satisfaire le natif de Bangui qui étudie en France, plus précisément à Rennes en Bretagne. Il participait à ses deuxièmes Jeux après ceux de Rio en 2016 et vous allez l'entendre au micro d'Olivier Pron. Malgré son élimination, Frankie Mboto était donc aux anges après sa performance.
Un combat, c'est un combat personnel, un combat national. En 2016, j'ai participé aux Jeux Olympiques avec l'objectif de m'approcher du minima olympique. Et à Rio, j'avais 18 ans, j'ai fait 1,52. Là, je suis revenu avec une année de galère, blessure, Covid et tout. Et je fais 1,48, c'est juste magnifique pour moi. C'est un accomplissement, je pourrais pleurer là toute la journée parce que c'est un truc de fou pour moi. Je suis dernier de la course, mais je suis peut-être le plus heureux.
C'est l'olympisme, c'est pour ça qu'on vient aux Jeux.
C'est les Jeux, c'est magique.
C'est quoi la vie de Frankie Mboto? Comment on peut concilier le fait d'être centrafricain, étudiant en école de commerce à Saint-Brieuc?
À Rennes en finance.
À Rennes en finance maintenant.
Ouais, c'est ça. Master 2. C'est comme j'ai dit, c'est un combat de vie. Et je suis tellement heureux que ça paye aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un truc de fou. Je suis heureux, juste heureux. Je vis en France, c'est galère, j'étudie. Et j'ai la pression du pays parce que je fais que 1,50 par rapport aux autres qui font 1,45. Et aujourd'hui, je me rapproche d'eux, je fais 1,48. C'est juste fou. C'est juste incroyable pour moi. C'est une année exceptionnelle. Je suis parti à Font-Romeu, c'était dur. Je suis parti en stage avec l'équipe de France en même temps que l'équipe de France au Portugal. C'était dur. Tout était dur et aujourd'hui, ça paye. C'est juste incroyable.
C'est dur comment? Comment on fait pour concilier les deux? Ça coûte?
Ça coûte, heureusement. Heureusement, j'ai le comité international olympique et le comité et ma fédération qui me soutiennent avec la bourse de la solidarité. J'essaie de m'en sortir un peu avec ça, mais c'est juste incroyable. C'est le courage, la détermination, comme je dis. Ma force, c'est ma détermination. Je suis peut-être le moins talentueux sur la piste, mais je suis aussi déterminé qu'eux. Et aujourd'hui, ça a été bon. J'ai amélioré le record national et il a de la gueule. Par rapport en centre brique, voilà. Je pense que j'ai écrit mon nom quelque part, c'est beau.
Ah, Francky Mboto, très heureux, vous l'avez compris, il ne participera pourtant pas aux demi-finales prévues ce dimanche. On en parlait tout à l'heure, il y aura aussi les demi-finales et la finale du 100 mètres messieurs. Les Sud-Africains Akani Simbine et Tloliso Leotlela sont toujours en lice, tout comme l'Ivoirien Arthur Gué-Cissé. Il y aura aussi la finale du lancer du poids féminin et celle du saut en hauteur chez les messieurs. Quant aux perchistes, ils seront en finale mardi, une finale à 14 dont le Suédois Armand Duplantis et Renaud Lavillenie seront concurrents. Le Français qui espère monter une nouvelle fois sur le podium après avoir décroché l'or à Londres en 2012 et l'argent à Rio en 2016. À 34 ans, c'est peut-être sa dernière chance et il a bien cru ce samedi qu'il ne réussirait pas à franchir le cap des qualifications. Lui qui s'est blessé à la cheville il y a 3 semaines et qui a donc vécu un concours difficile avec des barres à 5,50 m et 5,65 m franchis au troisième essai et un saut à 5,75 m pour accéder à la finale. L'ancien recordman du monde s'en est sorti à l'expérience et au mental.
Aujourd'hui, cette année, cet été, il est évident que pour moi le plus dur c'était de me qualifier parce que j'ai jamais été dans un contexte aussi compliqué. Je m'en serais bien passé, mais c'est comme ça. La blessure là, le pied, j'ai fait le maximum pour que ça puisse tenir. J'avais dans l'absolu quand même des énormes doutes parce que j'ai pas pu faire les derniers tests que j'aurais aimé faire. Mais voilà, j'ai fait confiance au médical, j'ai fait confiance en mes sensations perso et puis surtout j'ai fait confiance en mon instinct de compétiteur et de jamais rien lâcher avec un concours comme ça, une entrée catastrophique parce que c'était catastrophique. Ça a été intense. Je pense que c'est peut-être l'une des plus dures qualifications que j'ai fait en plus de 12 ans. Mais voilà, il faut savoir les passer, il faut savoir s'en sortir quoi qu'il arrive. Et se dire que mardi soir, la finale, ce sera un autre concours. Et je suis vraiment soulagé de pouvoir faire partie de la finale.
Assuré en même temps, ça va te perdre forcément.
Ouais, forcément, parce que j'ai vu que j'ai pu mettre de la tension et sur la cheville, il faut se dire que la perche, on peut pas le faire à 50%. C'est soit t'es à 100%, soit ça passe pas. Et c'est aussi quelque chose de positif. Et l'avantage que j'ai, c'est que il y a 2 jours entiers devant moi avant de préparer la finale. Et ça va être vraiment un plus pour moi, pour les soins, pour pouvoir vraiment récupérer, parce que ces derniers temps, j'ai passé plus d'énergie à récupérer, à soigner la blessure, qu'à faire du jus pour être en forme. Je l'ai senti ce matin et là, je suis soulagé de ce poids-là, de me dire que maintenant, je suis en finale, j'ai fait le plus dur et que je vais pouvoir me lâcher et puis me faire plaisir le plus longtemps possible, quoi.
Voilà, Renaud Lavillenie, qui, vous l'avez entendu, peut-être de très très loin, là, il répondait aux questions d'Olivier Pron, l'athlétisme, le sport roi de ces Jeux Olympiques. Il en sera bien évidemment question encore toute la journée sur RFI, dans nos journaux, avec nos envoyés spéciaux, et bien entendu, dans Mondial Sport, demain, on parlait tout à l'heure de la déception de Marie-Josée Talou, mauvaise journée pour les Ivoiriens à Tokyo, puisque les jeunes éléphants ont été battus par l'Espagne 5-2 après prolongation en quart de finale du tournoi de football dans un match complètement fou, puisqu'il y avait 2-1 grâce à un but de Max Alain Gradel dans le temps additionnel. Ils ont entrevu cette qualification, les Ivoiriens, mais la Rojita a réussi à égaliser sur une erreur d'Eric Bailly avant de faire la différence en prolongation. Le sélectionneur Swalio Aydara, déçu évidemment, lui qui pensait que son équipe pouvait aller beaucoup plus loin.
On a beaucoup de regrets parce qu'on pense que si on s'était mieux préparé, il y a des choses qu'on aurait pu éviter et il y a des choses qu'on aurait... Ben voilà, c'est beaucoup de regrets. On ne peut pas ressentir de la fierté à ce niveau-là quand on a la possibilité de passer un cap et que ça coince. On ne peut pas ressentir de la fierté. Voilà, comme je le dis, c'est des leçons qu'on en tire et puis peut-être que ça nous permettra de préparer le lendemain meilleur.
Swalio Aydara, interrogé par Martin Guez, a noté également que l'Égypte a été battue en quart de finale par le Brésil. Vous l'avez entendu, les athlètes ivoiriens sont allés de déception en déception à Tokyo. En tout cas, aujourd'hui et au pays, leurs supporters sont déçus pour leurs représentants qui sont passés à tout près d'être récompensés. La correspondance de Mohamed Lamine depuis Abidjan.
Boris Kla, gérant d'un café-resto et sportif amateur, voue un grand respect pour Marie-Josée Talou, dont il loue le courage et la détermination malgré les difficultés. Forcément, lorsque la sprinteuse termine ce samedi au pied du podium encore une fois, Boris Kla est déçu. Mais par-dessus tout, il pense qu'il a manqué des moyens conséquents à Marie-Josée Talou pour affronter des Jamaïcaines beaucoup mieux préparées.
On s'attendait à ce qu'elle arrive en finale. Pour la médaille, on y croyait. Parce que moi, je pense que c'est une fille qui se bat depuis un certain moment. Talou, au fait, c'est un bijou de la Côte d'Ivoire. Normalement, on devait miser là-dessus très fort. Si c'est une médaille de l'or, il faut miser pour qu'on puisse avoir l'or. Et il y a ce qu'on mise pour avoir la place de quatrième place, comme ce que Talou a eu. C'est vrai, il y a les lacunes qui sont là, il n'y a pas de problème. On a signifié les lacunes, mais il faut encourager ces personnes-là.
Claire Touré, quant à elle, ne manque pas d'encourager les éléphants footballeurs qui sont tombés face aux Espagnols dans les prolongations. Cet étudiant amateur de foot est tout de même dessus pour une demi-finale historique manquée.
J'ai aimé d'abord le courage, la détermination et le jeu collectif des Ivoiriens. Mais il y a eu quelques défauts. Le manque de concentration, l'excès de confiance et... ils n'ont pas su vraiment gérer le match. C'est ce qui fait plus mal, parce que ça aussi, là, ce sont des trucs qu'on enseigne et on apprend dans les entraînements. Comment gérer la fin des matchs. Les Espagnols étaient plus concrets que nous, sinon que le match était à notre portée.
Après le bronze récolté par Ruth Bagui au taekwondo, les dernières chances de médaille pour la Côte d'Ivoire dans ces JO de Tokyo reposent encore sur Marie-José Talou dans les 200 mètres et sur Arthur Cissé déjà qualifié pour la demi-finale 100 mètres hommes. Mohamed Lamine, Abidjan, RFI.
Et les séries du 200 mètres dames pour Marie-José Talou commenceront lundi. Voilà, on espère en tout cas des jours meilleurs pour les athlètes ivoiriens. À présent, on va se concentrer sur les performances des Français dans Mondial Sport. La joie des judokas tricolores qui ont remporté ce samedi l'épreuve par équipe qui faisait son entrée au programme des JO à Tokyo. Emmenés bien évidemment par Teddy Riner, ils ont réussi la performance de dominer le Japon chez lui dans la salle mythique du Budokan, le temple du judo. Les Japonais qui comptaient pourtant dans leur rang plusieurs champions olympiques lors de cette édition. Axel Clergé, Sarah Léonie Sizik, mais aussi Romain Dico et Clarisse Agbenyenou se sont imposés 4 victoires à 1, victoire sans appel. C'est un nouveau titre pour le colosse Teddy Riner qui aura donc soufflé le chaud et le froid lors de ces Jeux. Il était venu chercher l'or en individuel. Il repart du Japon avec une médaille de bronze dans la catégorie de plus de 100 kilos et donc ce titre par équipe. Un bilan mitigé pour lui qui était venu à Tokyo pour réaliser un historique triplé, Eric Mamrut.
Teddy de l'enfer au paradis. L'enfer hier avec son rêve de remporter une troisième couronne olympique des poids lourds qui s'est brisée en quart de finale. La faute à une petite erreur de Riner face à l'opportuniste russe Tamerlan Bachaïev. Non, le colosse guadeloupéen n'égalera jamais le légendaire japonais Tadahiro Nomura, seul judoka à avoir enchaîné 3 titres olympiques entre 1996 et 2004. Depuis son sacre en 2016 à Rio, pourtant, il ne pensait plus qu'à ça, Teddy Riner. Écrire l'histoire, encore un peu plus. Mais ses deux premières défaites depuis 10 ans, le report de ses Jeux de Tokyo et dernièrement en février une grave blessure au genou, ont sérieusement contrarié sa préparation. Résultat, une médaille de bronze décrochée au forceps au lieu de l'or tant espéré. Un demi-échec que l'entraîneur de Teddy Riner tente d'analyser. Laurent Caléja.
Psychologiquement, il était un petit peu différent. Il était un petit peu sur la retenue le matin. Il n'y avait pas le petit truc en plus qui fait la différence que Teddy a d'habitude. Et c'est ce qu'il a fait l'après-midi. Donc voilà, après, il est d'un niveau de champion olympique. Hein. Il y a 6 mois, il a pris tout le monde. Il les a tordus en deux. Et aujourd'hui, quand on voit comment il perd, c'est pas qu'il n'est pas du niveau. C'est juste qu'il a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Bah, c'est comme ça. Le niveau de la catégorie a considérablement augmenté déjà. Ça, c'est sûr. Peut-être la blessure a fait qu'on n'a pas pu ressortir. C'était prévu de faire une compète encore un peu plus. Mais voilà. Mais après, ça dépend de l'état du moment aussi. Hein.
Il dit qu'il revient de loin. À ce point-là, c'était si compliqué le chemin vers Tokyo.
Ah oui, très compliqué pour différentes raisons. Pour le poids, pour les blessures. Enfin, 10 fois champion du monde, double champion olympique, c'est compliqué de se remotiver pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, on nous annonce qu'il y a encore un an de plus avec le Covid. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est déjà une performance que Teddy, il arrive là en voulant être champion olympique. C'est déjà super. En tout cas, il l'a fait et on est fiers de lui parce que franchement, il a été chercher cette 4e médaille, cette 3e place et ça n'a pas été facile. Hein.
4 médailles olympiques en comptant le bronze de Pékin 2008 et maintenant 5, donc avec cet or, conquis aujourd'hui avec panache par Teddy Riner et ses camarades de l'équipe de France. Au nez à la barbe des numéros 1 mondiaux japonais et dans leur salle mythique du Budokan, un vrai goût de paradis pour l'Antillais.
Forcément, je me sens heureux, forcément. Aujourd'hui, on a réussi quelque chose de génial, génial, tous ensemble. On est allé la chercher et voilà, France-Japon au Budokan, à Tokyo durant les Jeux Olympiques. Incroyable, incroyable. Moi, j'ai des émotions qui sont en train de me submerger, qui explosent à chaque moment, même si j'ai beaucoup de fatigue. Et voilà, on l'a fait, c'est une fierté, c'est... Déjà que ma médaille hier, j'étais fier, mais alors là, je suis encore plus fier et j'ai hâte vraiment de retrouver ma famille. J'ai hâte de fêter avec eux, j'ai hâte de fêter avec tous ceux qui nous ont soutenus. Et surtout profiter de ça, chaque instant.
Vous la classez où cette médaille?
Elle est aussi importante que toutes les autres et elle va faire très plaisir dans mon palmarès. Ça donne des ailes pour continuer. Mais avant de pouvoir se dire, allez, Paris, on va penser à la récupération, au repos, à se recentrer avec sa famille et profiter.
Un repos bien mérité avant de se projeter vers les Jeux de Paris 2024 pour son dernier défi, décrocher là-bas à 35 ans ce fameux troisième titre olympique des poids lourds, de surcroît devant sa famille et le public français, pour ce qui serait une fin de carrière en apothéose. Éric Mamrut, Tokyo, RFI.
Et avant de penser à Paris, un mot sur le bilan du judo français avec cet exceptionnel bilan donc de 8 médailles. Un record sur une édition des Jeux. Ce titre par équipe des judokas, c'est aussi la 4e médaille d'or pour la délégation tricolore qui compte 19 récompenses. Journée prolifique, on le disait hier, 6 récompenses supplémentaires outre l'or pour Rinner et sa bande. La France a remporté une médaille de bronze dans l'épreuve de triathlon par équipe et 4 médailles d'argent. 2 pour Charline Picon et Thomas Goyard en planche à voile, une pour l'équipe de France féminine de rugby à 7 et une autre en escrime. Samedi, ce sont les sabreuses qui ont réussi à grimper sur le podium. Manon Brunet, Cécilia Berder, Charlotte Lambach et Sarah Balzer ont seulement été battues en finale par les Russes, tenantes du titre 45 touches à 41. Une défaite certes, mais la satisfaction tout de même d'inscrire son nom au palmarès d'une épreuve assez récente au JO puisqu'elle n'a été introduite qu'en 2008 à Pékin. Le reportage de Christophe Diremzian à Tokyo.
Le cri de rage libérateur d'Olga Nikitina déchire la salle quasi vide. 45e touche, les Russes exultent sur le coup dépité, ravalent vite leur déception. Manon Brunet, déjà médaillée de bronze en individuel, savoure sa deuxième récompense acquise au bout de l'effort.
Moi j'ai mal partout, mais c'est de la bonne douleur presque. J'ai hâte qu'on fête ça ensemble ce soir et pendant des semaines et qu'on retrouve le groupe et qu'on fête ça avec tout le groupe. Je suis fière on est fiers d'avoir fait tout ça avec les entraîneurs. Et voilà, c'est un travail collectif, mais les 12 filles, les coachs et tous ceux qui nous ont accompagnés, il y a eu un gros staff.
Aucun regret d'avoir lâché prise dans ce duel où les Françaises ont pourtant compté jusqu'à 6 touches d'avance dans le 4e relais. Sofia Pozniakova, Paris d'or, lundi, championne du monde 2018, est en difficulté. Mais dans le 5e, Charlotte Lambach craque et encaisse 11 touches de Nikitina. Le début d'une bascule irrattrapable, l'Alsacienne en est consciente.
Mon relais, quand je le prends 11-3, oui, tu dis que tu mets un peu ton équipe dans la merde et en même temps...
Dans l'embarras.
Merci la journaliste. J'ai pas les mots encore adéquats, mais mettre 2 touches de plus, on se dit que ça peut changer la donne en fait. Et en même temps, ça nous procure des émotions de fou quoi. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est dans un sens comme dans l'autre, c'est des émotions magiques.
Celle qui corrige sa coéquipière, c'est Cécilia Berder, l'une des plus expérimentées du groupe. 12 ans de carrière à squatter régulièrement les podiums mondiaux par équipe, sans réussir à grimper sur celui des Jeux de Rio. L'échec de 2016 avait été total, une élimination d'entrée de jeu. 5 ans plus tard, la désillusion fait place à l'aboutissement d'un groupe soudé.
Je suis fière d'elle, je les ai vues tous les jours à l'entraînement, progresser, chercher, combattre, et avec respect, avec justesse, avec malice, avec sourire. Et voilà, cette équipe, j'en suis amoureuse, vraiment. Et cette médaille, j'en dormais plus, quoi. J'en voulais, je la change pas, quoi. C'est exactement ça que je voulais réussir. Cette histoire, elle est faite comme ça. Ok, c'est une médaille d'argent, mais il y a autre chose qui va avec, il y a quelque chose qui se passe dans nos tripes, et voilà, oui, je sais, c'est une médaille d'argent, oui, on peut faire mieux. Peut-être qu'on a perdu une petite bataille à la fin, mais voilà, on a gagné cette médaille.
L'argent olympique, une manière idéale de tourner une page. Charlotte Lambach a en effet annoncé sa retraite sportive à 33 ans, avec la satisfaction d'avoir pavé la voie de l'excellence féminine dans une arme jusqu'alors dominée en France par les hommes. Christophe Diremzian, Tokyo, RFI.
Et dimanche, dernière chance de médaille pour l'escrime tricolore avec le fleuret par équipe masculin. Voilà pour cette large page olympique dans Mondial Sport. Il nous reste quelques minutes pour s'intéresser un peu au football.
À la maison, en déplacement,
on a quitté la France.
Tout laissé derrière nous.
Tout ?
Non. Pas le PSG.
Paname,
c'est dans le sang,
nos couleurs, nos convictions. Alors pour le trophée des champions,
on vous promet un déplacement
à la maison.
Et comme on dit en hébreu,
Baruch Abba.
Ah, Baruch Abba en hébreu, ça veut dire bienvenue en version française. Vous l'avez deviné dans ce petit clip enregistré par le fan club du PSG en Israël. La Ligue 1 et surtout les stars du club parisien sont attendus à Tel Aviv demain pour le trophée des champions face à Lille. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Cédric.
Alors à l'exception de l'édition 2020, ce traditionnel match de rentrée entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe Nationale s'est toujours disputé à l'étranger depuis une grosse dizaine d'années, mais c'est une première. première en Israël.
Oui, à l'occasion de ce match, la Ligue 1 s'était exportée en Chine, au Gabon, au Maroc, en Tunisie ou encore aux États-Unis, avec bien sûr l'idée de vendre le produit championnat de France à l'international. Mais jamais jusque-là, ce trophée des champions ne s'était joué dans cette région du monde, région sous tension en raison bien sûr du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, des appels, des pétitions même ont été lancées sur les réseaux sociaux par des collectifs pro-palestiniens pour demander tout simplement que ce match ne se joue pas en Israël.
Alors sans succès, hein, puisque ce sera le cas, ce match aura lieu en Israël. D'ailleurs, les joueurs, les entraîneurs du PSG et de Lille, est-ce qu'ils ont eu droit à des questions sur le sujet en conférence de presse ?
Alors vous savez, les acteurs du foot font rarement de la politique, donc même s'il y avait eu des questions directes, elles auraient sans doute été dribblées, bien sûr. Nos confrères ont quand même demandé à Mauricio Pochettino, à Idrissa Gueye, s'ils étaient contents de jouer ce match à Tel Aviv, et là évidemment, réponse poli et convenu.
Et comme souvent, alors là, il ne faut pas froisser l'hôte hein, qui a mis la main à la poche. On parle d'un peu plus d'1,5 million d'euros tout de même payés à la Ligue pour accueillir ce match.
Et si cette somme a été déboursée, vous vous en doutez, ça n'est pas juste pour les beaux yeux de la Ligue 1. Explication de Kevin Vessière, fondateur du média Football Club Geopolitics et auteur d'un livre éponyme.
Un investissement sur l'avenir en termes d'image, hein. On peut le faire des parallèles avec par exemple l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui investissent beaucoup aussi pour organiser des compétitions internationales sur leur territoire. C'est une manière aussi de montrer Israël sous un nouveau jour, sous le jour d'un pays qui accueille des grands événements sportifs. Et c'est vrai que dès qu'on parle de sport, il y a toujours des valeurs positives qui sont véhiculées. Ils ont pris cela sur le tard, mais je pense que de plus en plus de compétitions internationales seront organisées en Israël.
Le trophée des champions cette année, un match amical Argentine-Uruguay avec Léo Messi en 2019. Et puis, il y a eu aussi des premières étapes du Giro, le Tour d'Italie cycliste en 2018. Ça fait pas mal d'événements sportifs. Derrière l'obtention et le financement de tous ces événements, il se cache un homme.
Il ne se cache pas vraiment, en fait. Sylvain Adams, homme d'affaires israélo-canadien, dont le nom apparaît parmi les sponsors sur les panneaux de conférences de presse du trophée des champions. Sylvain Adams, qui a aussi monté une équipe cycliste, Israel Startup Nation, qu'il a réussi à emmener au Tour de France. Nous l'avions d'ailleurs rencontré l'an dernier. Il nous avait expliqué son projet de diplomatie par le sport. Mais pour Kevin Vessière, son ambition et ses initiatives sont forcément soutenues par les autorités.
Ça a une telle importance que même si c'est des initiatives privées, il y a tout de suite l'organe étatique qui est forcément derrière. Par exemple, pour rester sur le football, on peut voir qu'Israël se rapproche d'autres pays, notamment vis-à-vis du monde arabe et des Émirats arabes unis. Et là, on a pu voir qu'il y a des accords qui sont en train d'être faits entre la fédération de football des Émirats arabes unis et celle d'Israël. Et c'est vrai que même si c'est que du sport, il y a quand même des enjeux politiques derrière, avec l'idée aussi d'apaiser des relations internationales dans le golfe Persique.
Et ce match, ce trophée des champions PSG Lille, c'est déjà en termes de rapprochement un petit événement en soi. Le PSG étant un club financé par le Qatar, un pays qui officiellement ne reconnaît pas l'existence d'Israël. Or Nasser El Khelaifi, qui est président du PSG, mais aussi membre du conseil d'administration de la Ligue, ne se serait pas opposé au choix Tel Aviv. On peut y voir un premier pas.
Eh bien merci Thomas de Saint-Léger, le trophée des champions. J'espère que vous reviendrez avec plaisir demain dans Mondial Sport pour nous en parler. PSG Lille, coup d'envoi à 18h temps universel demain. Donc un PSG qui sera sans doute très remanié. Beaucoup de joueurs sont revenus tardivement de vacances, notamment les internationaux qui ont disputé l'Euro et la Copa América. Le PSG qui a fait le déplacement sans Kylian Mbappé, sans Neymar et sans la recrue Sergio Ramos à une semaine de la reprise du championnat de France de football. Nous, on en a presque fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook, mais aussi nos comptes Twitter et Instagram pour nous dire si vous avez aimé notamment cette émission. Merci à Pierre Poins qui m'a aidé à la préparer. Nouvelle journée olympique qui ne va pas tarder à démarrer à Tokyo. Il est à 7h du matin au Japon et que vous allez pouvoir vivre sur l'antenne grâce à nos envoyés spéciaux. Profitez bien et nous, on se retrouve demain à partir de 21h30 temps universel. Bonne fin de soirée sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.